Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Sylvie Ramel, votre guide dans ce voyage vers toujours plus de simplicité et de vitalité. Depuis 2013, je me suis lancée dans une quête, une aventure à la fois savoureuse et éducative à travers l'entreprise Cuisine Végétale un peu sauvage. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Simplicité et Vitalité. Pourquoi cette aventure culinaire ? Parce que la connaissance, l'émancipation et la créativité ont toujours été mes boussoles. Et la cuisine, mon terrain de jeu favori. Oui, la cuisine, un art ancestral où chaque ingrédient, chaque geste révèle une histoire, une tradition, une passion. Mais aussi un lieu de liberté où chacune et chacun peut réinventer, créer, explorer. Je crois profondément que manger sainement, se sentir connecté à la nature et au cycle des saisons est un droit, une simplicité que chacune et chacun d'entre nous devrait pouvoir embrasser, peu importe notre emploi du temps ou notre budget. Pourtant, entre les dogmes alimentaires, les peurs distillées par l'industrie agroalimentaire et l'anxiété face aux défis écologiques, cette simplicité semble parfois perdue. Ici, dans le podcast Simplicité et Vitalité, nous brisons ces barrières. Oui, manger sainement, c'est simple. Oui, manger sainement, c'est accessible. Et surtout, c'est un choix, un plaisir et pas une obligation. C'est le plaisir de faire du bien à son corps et à notre terre. Alors ensemble, apprenons et pratiquons l'art et le plaisir, surtout, de manger naturellement. Bienvenue dans le podcast Simplicité et Vitalité. Bonjour, bonjour, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce 5e épisode du podcast Simplicité et Vitalité, un épisode que j'ai intitulé « Cuisiner avec passion et curiosité, l'antidote au perfectionnisme ». C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui, déjà parce que c'est un thème qui me tient vraiment profondément à cœur, que nous allons explorer dans cet épisode. Et puis bien sûr, ça fait quand même, pour celles et ceux qui m'avaient déjà écouté au début de cette année pour les premiers épisodes, voilà maintenant un certain temps que j'avais mis en pause cette série Simplicité-Vitalité. C'est donc une joie immense de vous retrouver, de reprendre le fil avec vous. Cet épisode m'a été en fait inspiré par un cours que j'ai eu la chance d'animer il y a maintenant quelques jours du côté de la ville de Genève. J'avais en fait été invitée par l'unité de développement durable de la ville de Genève et du canton de Genève à animer une journée autour de la lactofermentation destinée à des chefs professionnels, des chefs de cuisine. Et puis l'objectif en fait était de leur donner un coup de boost en vue du concours qui va avoir lieu en septembre-octobre 2023, qui a eu lieu selon quand vous écoutez cet épisode. Donc un concours centré sur la gastronomie et la durabilité. Alors voilà, on était donc une vingtaine de personnes réunies ce jour-là, y compris donc les deux représentants de la ville de Genève et du canton de Genève pour le développement durable. Et puis autant vous dire qu'il y avait beaucoup de curiosité dans la salle, beaucoup de passion surtout, beaucoup d'engagement de la part de ces chefs. Certains découvraient pour la première fois, d'autres pratiquaient depuis fort longtemps, étaient déjà vraiment très, très pointus aussi sur ces domaines de fermentation. Et puis d'autres étaient vraiment d'excellents chefs, travaillant des restaurants gastronomiques ou des restaurants parfois de collectivités publiques. Mais dans tous les cas, tous étaient à la fois passionnés et expérimentés et très très engagés dans leur démarche. Sachant aussi que les cuisiniers présents ce jour-là ont eux-mêmes, de leur propre initiative, signé une charte les engageant à respecter un certain nombre de principes en lien avec le développement durable. Et puis, l'après-midi, en fait, on avait deux groupes, et l'après-midi arrive en fait une très sympathique dame qui semblait quand même un tout petit peu arriver là par hasard. Elle n'était pas elle-même chef. Son fils l'était, mais l'avait apparemment envoyé, et puis donc était un petit peu empruntée, mais néanmoins très motivée, très heureuse d'être là. J'ai déjà fait une première plaisanterie au moment du tour de table d'introduction en disant « c'est vrai que pour qu'elle arrive ici, entre guillemets, par hasard, il fallait quand même qu'elle soit déjà déterminée à arriver jusqu'à nous, et donc Elle était forcément bienvenue dans ces conditions. Donc voilà, on a une première partie théorique, puis on est passé à la pratique. Et puis arrivé dans la partie pratique, c'est vrai que cette dame était parfois un tout petit peu, comment dire, un peu intimidée, comme ça. Elle ne savait pas forcément trop quoi faire, comment faire certaines choses. Et puis de mon côté, c'est vrai que j'avais un public d'avertis en face de moi, donc les bases de la découpe et des choses comme ça, je les laissais quelque part sous la responsabilité des chefs eux-mêmes qui en savaient bien plus que moi. Et puis à un moment donné, cette dame, elle était un peu gênée, puis elle me dit, mais c'est un peu embarrassant quand même face à tous ces chefs. Alors là, j'ai dit, faut pas t'inquiéter. Parce que c'est très gênant pour moi aussi, c'est exactement la même chose. Alors bien sûr, c'était une plaisanterie pour détendre un peu l'atmosphère, parce que cette dame était comme ça, un peu presque en train de se demander si elle n'était pas juste une imposteur plus qu'autre chose. Et puis évidemment, quand elle m'a dit ça, j'ai tout de suite vraiment eu ce sentiment que de toute manière, chacune et chacun avait sa place, quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai, pour être honnête, que ça a fait résonner en moi cette petite partie voilà, qui craint l'imposture, voilà, ça m'arrive comme à la plupart d'entre nous. Donc voilà pourquoi cette petite boutade, c'est la même chose pour moi. Le cours s'est très bien déroulé, il n'y a pas eu de doigts coupés ni rien, tout s'est très très bien passé. Et puis après, sur le chemin du retour, je repensais un tout petit peu à cette anecdote, et puis j'ai essayé de réfléchir aussi à comment je me repositionnais moi-même et puis comment on pouvait reposer le cadre aussi pour cette personne, mais peut-être aussi pour vous qui m'écoutez lors de cet épisode, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui peut nous arriver à toutes et à tous, à peu près à n'importe quel moment, d'avoir ce sentiment de ne pas être tout à fait à notre place ou de ne pas être à la hauteur. Donc dans cet épisode, j'avais vraiment envie d'explorer ces thèmes. En fait, les trois grands thèmes clés que j'aimerais explorer, ce sera déjà comment on peut être, disons, idéaliste et passionné sans pour autant être perfectionniste. Et puis, quand on a ce sentiment d'imposteur, comment est-ce qu'on peut le surmonter? Ce sera le deuxième thème. Et troisième thème, vraiment une réflexion sur le fait de trouver sa place, même dans les endroits les plus inattendus. Donc, comme j'ai déjà utilisé ce terme de recadrage, ça va vraiment être un peu un des fils rouges de ma réflexion, c'est de reposer le cadre différemment, peut-être, on pourrait dire aussi, changer le regard aussi, le regard sur certaines choses que l'on s'essaye à faire, mais le regard aussi sur soi-même. Dans bien des cas, si vous êtes aussi exigeante ou perfectionniste que je peux l'être parfois, je dirais pas souvent, mais peut-être même souvent, vraiment, c'est, je pense, une nécessité d'apprendre petit à petit à développer un regard de bienveillance vis-à-vis de soi-même, en particulier quand on se met dans des situations d'apprentissage, de nouvelles connaissances ou de nouvelles techniques. Très souvent, si vous êtes à nouveau comme moi, vous êtes peut-être suffisamment passionné aussi pour justement rechercher ces situations d'apprentissage, de nouveautés, de défis à relever. Et puis, peut-être que vous retrouvez aussi dans cette dichotomie que j'expérimente quand même assez souvent personnellement, c'est, oh, j'ai envie d'aller là où il y a quelque chose à faire différemment, où il y a de la nouveauté, où il y a besoin de mobiliser aussi des nouvelles ressources. Puis en même temps, c'est ce passage qui est des fois un peu inconfortable. Voilà. Donc voilà un peu les grands thèmes de cet épisode. Je vais y aller pas à pas en prenant en fait comme structure 6 secrets pour cuisiner comme un ou une chef que j'ai déjà commencé à déployer dans une chronique radio que vous avez peut-être eu l'occasion d'écouter. Sinon, je vous invite à aller sur le site internet à vous rendre dans la rubrique des ressources. Vous allez dans le menu déroulant, vous trouverez les chroniques radio et vous y trouverez justement les références ensuite pour écouter cette chronique qui a été également élaborée autour de ce cours avec les chefs de cuisine. Et puis là, simplement, je vais peut-être avoir le temps de rentrer dans un peu plus de profondeur que je n'avais eu le temps de le faire dans la chronique radio. Donc, ces six secrets pour cuisiner comme une chef. Alors, le premier secret fondamental, c'est de vraiment comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et pourquoi c'est si fondamental de mon point de vue, c'est que le fait de comprendre les techniques et de comprendre pourquoi on va faire telle, on va poser telle action plutôt que telle autre, pour moi c'est vraiment un chemin de liberté. Par comparaison à si vous prenez un livre de recettes de cuisine, vous appliquez la recette à la lettre, vous allez peut-être avoir un meilleur résultat, ou mettons un résultat plus précis pour pas y mettre un jugement de valeur. Vous allez avoir un résultat plus précis, mais serez-vous ensuite capable de faire une variante de la recette un peu différente ou de reproduire cette recette sans avoir besoin de reprendre à chaque fois le livre, etc. Donc moi-même, évidemment, je vous rassure tout de suite, il y a plein de choses pour lesquelles j'ai besoin de la recette, même qu'elle soit écrite sur un post-it ou qu'elle soit dans un livre de cuisine, je reprends le livre et je remets en œuvre. Mais si je passais mon temps à faire ça, en fait, je pense que j'arrêterais de cuisiner parce que ça me prendrait vraiment juste beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie. Et à contrario, si je peux comprendre ce que je fais et pourquoi je le fais, là, je comprends les grands principes et je peux me les approprier, je peux reprendre ma liberté et puis je peux improviser. Un exemple que je pourrais vous donner, c'est ben, typiquement, si vous êtes dans le cas de figure aussi à devoir vous mettre à cuisiner sans gluten, par exemple. Une des règles disons, de la préparation de pâtisserie ou de choses du type pain sans gluten, préparation sans gluten, ça va être de mélanger trois farines différentes. Pourquoi on le fait? C'est qu'en fait, dans les différents nutriments qui composent ces farines, on va généralement avoir besoin de combiner trois farines, on n'a pas besoin de savoir lesquelles. Mais c'est ce qui va nous donner comme ça un peu la consistance la plus intéressante pour nos préparations. Donc une fois que je sais ça, une fois que je sais en parallèle quelles sont les farines sans gluten que je peux utiliser, ce serait par exemple la farine de sarrasin, la farine de riz, la farine de maïs, les pois chiches, la quinoa, voilà, que sais-je. Donc vous avez votre liste de farines sans gluten, vous savez que vous en combinez trois. Vous allez jouer ensuite sur les différentes saveurs, peut-être que vont apporter ces farines, ou justement l'absence de saveur, parce que vous aimeriez avoir quelque chose d'assez neutre. Par exemple, moi je vais utiliser la farine de châtaigne très volontiers dans certains desserts, parce que ça va apporter une petite note sucrée, mais je sais que c'est une farine qui a un goût très prononcé, donc suivant ce que je veux mettre avec, je vais essayer de l'éviter pour pas que ça fasse d'interférence. Et puis, là, je vais pouvoir comme ça être dans ma cuisine puis improviser en quelques minutes sans devoir aller chercher à gauche à droite des recettes. Donc, premier secret pour cuisiner comme une chef, c'est comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites pour simplement avoir un maximum de liberté dans votre cuisine. Deuxième secret, passer à l'action. Alors, passer à l'action, c'est vraiment carrément franchement fondamental. C'est vraiment sur cet aspect-là que j'ai beaucoup mis le focus dans mes différents programmes en ligne qui ont été mis en place à partir de 2023. Donc, il s'agit des explorations végétales, le programme le plus avancé, mais déjà avec la reconnexion végétale. En fait, très rapidement, on passe à l'action. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, surtout si on a une légère tendance au perfectionnisme, on va regarder une recette, puis on va dire oh, c'est trop compliqué, ou il manque des ingrédients, je ne vais pas y arriver, ou j'aurai pas le temps, je ne sais pas. Il y a toujours plein de freins qui vont venir. Et puis, à contrario, si on vous donne les principes de base, que principe numéro 1, vous avez compris les principes de base, ensuite, principe numéro 2, vous mettez directement en application. Et puis là, ben, vous faites parfois des expériences qui sont plus ou moins réussies ou plus ou moins ratées, mais vous faites l'expérience et même quand c'est raté, vous en apprenez bien plus que si vous laissez votre livre de cuisine sur une étagère sans jamais passer à l'action. Parce que c'est en faisant même des erreurs, même des faux pas, que vous allez comprendre petit à petit beaucoup plus ce dont il s'agit par rapport à cette recette. Et puis là, c'était vraiment en tout cas aussi ce que j'ai pu observer justement au cours de cette journée. C'est que même les chefs qui n'avaient jamais fait de lactofermentation de leur vie, à peine ils ont eu la partie théorique qui était terminée, Ils sont passés en cuisine, ils ont pris les ingrédients, ils ont essayé des choses. Ils ont essayé tout de suite, ils ont fait. Et puis, même une des chefs qui me disait, non, mais pour nous, enfin, pour moi, en tant que chef, c'est juste indispensable de passer à la partie pratique, de passer à l'action, parce qu'en plus, moi, je suis vraiment quelqu'un de manuel, j'ai besoin de faire les choses. Je ne peux pas juste y réfléchir, en discuter, je dois le faire. Donc, par rapport à ça, moi, je vous réfère aussi à un article que j'ai publié qui développe aussi cette réflexion sur l'intelligence de la main, l'importance de ce passage à l'action aussi, de ce passage à la pratique. Voilà, tout un concept qui avait été développé il y a déjà quelques décennies par Denis de Rougemont de l'intelligence de la main. Essayez de vraiment, sans que je rentre maintenant dans tout le concept, mais vraiment essayer de revaloriser aussi cette interaction entre une intelligence plus cognitive, intellectuelle, et puis cette intelligence qui vient par l'expérimentation, y compris et peut-être même parfois surtout lorsque l'on fait des erreurs. Ensuite, troisième secret de chef, alors là c'est plus terre à terre, c'est le choix des ingrédients de qualité. Donc vraiment choisir des ingrédients frais et vraiment qui soient nutritifs. Donc ça veut dire quels sont les critères déjà premiers pour choisir les meilleurs ingrédients possibles. C'est qu'on va déjà les choisir local et de saison. Si possible, en bio, c'est vraiment ce que je préconise. C'est que autant que possible, on favorise en priorité l'agriculture bio. Pas forcément pour soi, parce que moi j'ai un peu une vision où je suis là quand même de manière assez furtive sur cette planète Terre. Hein. Mais c'est plutôt pour moi important de manger bio aussi par respect pour l'environnement. Donc les ingrédients de qualité, après, bien, essayez de ne pas faire du recyclage de vos produits à tout prix. Essayez vraiment aussi dans le choix de vos ingrédients, ça veut dire aussi essayez d'acheter au fur et à mesure ce dont vous avez besoin, ou peut-être que vous avez la chance de cultiver un jardin, d'avoir un balcon avec certaines herbes ou plantes, etc. C'est vraiment d'avoir les produits qui soient les plus fraîchement cueillis aussi dans vos préparations. Ensuite, ça va nous faire le quatrième critère hein, pour cuisiner comme une chef, la précision. Alors, la précision, mais je précise justement, la précision sans pour autant devenir maniaque ou devenir justement maniaquement perfectionniste. La précision, je dirais, ouais, j'aurais peut-être besoin de changer ce terme par la justesse, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire la précision au niveau de l'hygiène de votre cuisine. Typiquement, avec les chefs, l'autre jour, on travaillait les lactofermentations. C'est important pour les lactofermentations de bien comprendre qu'on ne va en aucun cas travailler dans un contexte aseptisé, puisqu'on va travailler avec les bactéries, justement. Mais par contre, on travaille dans un contexte qui soit propre. Donc les légumes sont propres, nos mains sont propres, les ustensiles, la cuisine, tout notre environnement est propre, mais sans être aseptisé. Ça, c'est déjà une partie de la précision. Ça peut être aussi, quand on est dans la recherche de la simplicité que j'aime explorer aussi dans ce podcast, là, je vous réfère de nouveau à encore... Autre chose qui sort de ce podcast, mais qui était une série de live sur Instagram que j'avais eu la chance de mener avec une spécialiste du Feng Shui, où on avait en fait discuté aussi de l'organisation de la cuisine. D'avoir une cuisine qui soit pas forcément ordrée au sens strict du terme, mais ordonnée ou organisée. Voilà, c'est le terme que je cherche, c'est organisée. Une cuisine qui soit organisée, dans laquelle vous vous y retrouvez, vous savez où est quoi, et puis quand vous devez vous mettre en cuisine, c'est pas déjà l'angoisse de devoir surmonter le chaos usuel de la cuisine, mais c'est vous dire, tiens, je vais rentrer en cuisine, je vais rentrer dans un univers que je maîtrise, que je connais, qui est peut-être apaisant, qui est ressourçant, je sais où est quoi, ça va pas me prendre de temps parce que tout de suite je vais pouvoir avoir... À la surface du plan de travail, les choses dont j'ai besoin pour cuisiner en toute sérénité. Donc la précision, c'est aussi ça. C'est aussi dans l'organisation. Et puis évidemment, Alors, la précision, c'est aussi au niveau du suivi des recettes. C'est de nouveau lié au principe numéro 1, qui était de comprendre ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Parce que, par exemple, pour une lactofermentation, la précision, ce ne sera pas forcément au gramme près ou au grain de sel près, mais on a un certain nombre de grammes de sel à mettre dans une saumure ou à mélanger avec les légumes pour faire lactofermenter les légumes. Si on n'en met vraiment pas assez, on va pas réussir à faire fermenter, lactofermenter nos légumes. Si on en met trop, bon, à la limite, on pourra faire fermenter, mais ce ne sera pas très agréable à déguster par la suite. Donc ensuite, ce n'est pas une précision au gramme près, parce que par exemple, pour une saumure, on a quand même une fourchette qui va de 30 à 40 grammes de sel pour 1 litre d'eau, vous voyez, la marge. Mais c'est quand même une certaine, malgré la marge, voilà, il y a quand même un certain nombre de principes à respecter. J'en viens maintenant à mon. J'ai perdu un peu le compte de mes principes. Donc le premier principe, je vous les récapitule comme ça va faire un petit rappel. Donc le premier principe, c'est comprendre ce que l'on fait, pourquoi on le fait. Le deuxième principe, c'est passer à l'action. Le troisième, c'est privilégier les ingrédients de première qualité. Et puis le quatrième, la précision. Donc j'en suis au cinquième. Donc le cinquième principe pour cuisiner comme une chef, c'est d'avoir l'audace de la créativité. Alors là, c'est vraiment, je pense, c'est l'élément que j'ai qui m'a le plus marqué de cette journée de cours avec les chefs, c'est d'avoir l'audace de la créativité, mais aussi le plaisir, hein, peut-être, hein, de faire vraiment des choses qui soient plaisantes à regarder, d'anticiper déjà le plaisir de la saveur qu'aura la préparation par la suite. Hein. Et puis d'expérimenter des choses, de se lancer dans des choses, de pas se laisser restreindre par la peur d'échouer ou la peur de pas faire juste, la peur que ça soit pas parfait, mais vraiment juste essayer des choses pour quelque part le plaisir créatif. Donc là vraiment, ce que j'ai vu aussi dans cette journée de cours, mais que je vois vraiment régulièrement dans les différents cours que j'anime, c'est cette passion aussi d'arranger les légumes pour faire un effet graphique. C'est l'anticipation aussi d'une alchimie entre un légume et un épice. C'est la joie aussi des couleurs, etc. Donc vraiment, juste absolument aucune limite, mais vraiment utiliser, prendre appui sur la joie et le plaisir que peut procurer la créativité. Pour être comme ça, comme dans un élan vital, dans un élan de vie, hein. Travailler cette vitalité, hein, qui est au cœur de ce podcast, travailler cette vitalité à travers, hein, la créativité, mais à travers aussi l'audace, hein, et à travers ce sentiment de liberté, c'est-à-dire, on a, oui, il y a un certain nombre de règles, un certain nombre de points de repère, hein, mais qui vont servir de cadre pour canaliser les choses. Et puis, tout ça prend vie à travers cette audace créative, cette liberté que vous allez prendre, cette place que vous allez prendre au fond. Donc, on parle de la place que vous prenez par rapport à ces règles, les règles d'une recette de lactofermentation, les règles d'une cuisine équilibrée, les règles un peu de durabilité, comme ça, respecter comme ça un certain nombre de critères écologiques en cuisine, mais c'est pas c'est vraiment essayer de faire la distinction entre des règles comme ça un peu imposantes qui seraient comme ça un peu presque écrasantes, aussi un cadre comme ça un peu comment dire d'autorité comme ça qui vient un peu brider qui viendrait justement brider la créativité, mais au contraire, c'est prendre position, prendre place dans ce contexte auquel, vraisemblablement, si vous écoutez ce podcast, vous avez choisi d'adhérer aussi. Donc, avec une cuisine qui est centrée sur un respect aussi de notre planète, qui est un respect de l'environnement, un respect aussi ben, de notre propre santé, de la santé des personnes qui nous entourent. Donc vous avez peut-être quelque part, on peut dire, choisi ce cadre, mais dans ce cadre n'est pas contraignant. Ce cadre est vraiment au contraire comme quelque chose qui viendrait sertir un joyau quelque part. Ce joyau, c'est vous, Ce joyau, c'est votre liberté, c'est votre audace, c'est votre créativité. Et puis, pour couronner tout ça, puisqu'on parle de joyau serti, eh bien, le sixième secret pour cuisiner comme une chef, c'est la patience. Alors, c'est la patience. En l'occurrence, avec les lactofermentations, c'est la patience parce que ça ne va pas être prêt du jour au lendemain. Ça va prendre en tout cas 7 jours pour être prêt. Et puis, c'est la patience aussi de ces dynamiques d'essais et d'erreurs. Parfois, on va justement tenter des choses et puis ça ne va pas marcher du premier coup. Eh bien, c'est d'avoir la patience, la persévérance, de continuer à refaire, à reprendre peut-être la théorie s'il y a des choses qui n'étaient pas encore tout à fait claires, à redemander de l'aide à quelqu'un qui sait plus que soi et à chercher des informations dans des livres, sur Internet, dans des cours, peu importe, hein. Mais avoir cette patience comme ça, dans le sens de la persévérance aussi. Donc voilà, ces six secrets pour cuisiner comme une chef vous sont désormais révélés. Mais c'est bien sûr que le début. C'est à vous maintenant de vous les approprier, de les explorer, de les tester, de voir qu'est-ce qui résonne pour vous, qu'est-ce qui est déjà très présent, qu'est-ce que vous auriez envie de développer beaucoup plus. Mais disons que une des clés avec laquelle j'aimerais que vous puissiez repartir quand vous allez terminer cet épisode, c'est que vraiment, absolument tout le monde peut cuisiner avec passion et expertise. Du moment que vous arrivez à développer la bonne approche, le bon état d'esprit quelque part, hein, et puis que vous avez les bons points de référence pour vous y retrouver. Donc, avant de vous laisser, peut-être une petite invitation à la réflexion. Donc déjà, vous allez retrouver ces six principes, hein, dans les notes décrivant cet épisode de podcast. Hein. Ce que je vous suggère peut-être, c'est d'en prendre un ou deux ou les six, à vous de voir, hein, et puis de voir comment vous pourriez, si ce n'est pas déjà fait, appliquer ces principes non seulement à la cuisine, ça c'est un premier point de départ, hein, mais aussi dans d'autres domaines de votre vie. Donc, si le cœur vous en dit déjà d'expérimenter, c'est une première chose, et puis si vous avez aussi l'envie de le partager avec la communauté que nous formons, alors c'est très volontiers. Vous allez retrouver aussi une description de cet épisode de podcast, de nouveau sur le site internet cuisinevégétale.com. Vous allez dans la rubrique des ressources sous le podcast, et puis il y aura un article dédié à cet épisode. Et vous avez la possibilité, il s'agit donc d'un article de blog, vous allez pouvoir y ajouter votre commentaire. Donc voilà déjà pour cette première invitation à la réflexion. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne plongée peu à peu dans l'automne, dans les préparatifs aussi de l'automne qui sont les dernières récoltes, les éventuelles justement mises en bocaux, notamment avec les lactofermentations. N'oubliez pas aussi de récolter des graines, y compris pour vos lactofermentations ou pour vos différentes préparations de l'hiver. Dans tous les cas, je me réjouis, j'ai même hâte de vous retrouver d'ici quelques jours avec un prochain épisode. Et d'ici là, je vous dis à bientôt!